RCF, il est minuit. Les racines du présent, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Et au micro, comme chaque semaine, Frédéric Mounier. De quoi notre langue française est-elle le nom ? D'où vient-elle ? Quelles sont ses racines ? De quels idéaux est-elle porteuse ? Notre langue est-elle en péril ? Et ce qu'elle porte aujourd'hui, est-il aujourd'hui un chef-d'œuvre en péril ? Avec notre invité aujourd'hui, nous allons converser sur cette question. Boualem Sansal, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain, algérien, français, on en saura plus tout à l'heure. En tout cas, vous êtes ancien haut fonctionnaire de votre pays d'origine, l'Algérie. Vous avez publié de nombreux livres et le dernier aux éditions du CERF s'intitule « Le français, parlons-en ». Nous allons en parler avec Jean-Claude Raspienjas également, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez dirigé longtemps le service culturel du quotidien La Croix et vous avez été aussi pendant de très nombreuses années chroniqueur au Masque et la Plume sur France Inter. Voilà notre sujet aujourd'hui, histoire du français, histoire de France, histoire universelle, point d'interrogation.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Alors, Boualem Sansal, vous nous faites l'amitié d'accepter notre invitation. Le titre de votre livre, Le français, parlons-en au CERF. Je ne vous cache pas que votre livre m'a semblé écrit à l'emporte-pièce comme une cavalcade furibarde. Et vous professez une défense et illustration de la langue française. Ce livre se lit d'une traite, mais il faut bien le dire, il nous laisse comme essoufflés. Alors on va savoir pourquoi et comment. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous définir, Boualem Sansal ? Êtes-vous algérien, français, algéro-français, franco-algérien, ou êtes-vous universel, Boualem Sansal ?
Moi, j'aime pas les appellations avec un trait d'union entre les deux. Je suis algérien en Algérie et je suis français en France. Maintenant que j'ai la nationalité française, je me revendique comme français. Je sors d'un bain, je rentre dans un autre, je le prends en entier. C'est très difficile d'avoir deux montures, d'être sur deux chaises.
Mais oui, on imagine.
Et en particulier quand on est sur deux pôles totalement différents. Moi, je n'adhère plus. À ce qui se passe en Algérie, enfin, ce qu'est devenu l'Algérie.
Mmh. Alors, vous allez nous en dire plus,
voilà,
évidemment. Avant de passer la parole à Jean-Claude Raspienjas pour une première question, une autre précision de votre part. Vous définissez-vous comme étant agnostique, athée ? Êtes-vous musulman réformateur ? Êtes-vous simplement spirituel ? Comment vous définissez-vous, Boualem Sansal ?
J'ai toujours été depuis très longtemps, depuis presque mon enfance, très très attiré par les religions. J'ai vécu dans un quartier à Alger, Belcourt, et j'avais comme voisin direct Albert Camus,
voilà,
dont la maman et la mienne étaient de grandes amies. Donc j'ai vécu dans un milieu où juifs, chrétiens et musulmans vivaient ensemble sans se différencier. On mangeait la même cuisine, on vivait ensemble. C'est vraiment ce qu'on appelait la soupe.
Mmh.
Voilà. Et malheureusement, la guerre est arrivée, elle a séparé. Et il fallait peut-être se définir. Une fois que l'Algérie est devenue indépendante, reflux du christianisme et du judaïsme, disparition totale du judaïsme. Mmh. Le christianisme continue encore à vivoter de manière sous haute surveillance. Il leur est d'ailleurs interdit de
le convertir.
De convertir, c'est ouais. Très dangereux. Voilà. Et l'islam se pose comme, non pas seulement comme une religion, mais comme une doctrine totalitaire. Normalement, dans la religion, c'est quoi ? C'est le doute et la conversation. On commence par ça. On doute, et puis on discute avec les gens pour essayer de trouver un chemin de vérité, un chemin de quelque chose. Là, non, ça n'existe pas. Il faut avaler la potion. Sec, pardon.
Alors,
pour l'expression.
On va approfondir avec vous toutes ces questions et notamment on va rentrer dans la conversation et peut-être dans le doute avec une question de Jean-Claude Raspienjas.
Oui, on vient de l'entendre et on connaît vos livres, on connaît aussi vos déboires avec le gouvernement algérien, votre opposition très nette et très rapide à l'effacement du français en Algérie. Votre livre est un pamphlet vraiment rageur contre l'effacement du français y compris en France. À quand remonte cette colère et cette rage en vous?
Depuis toujours. Moi, j'ai reçu, je pense, comme beaucoup de gens de mon âge, ou en France, ou en Algérie, ou au Maroc, ou au Congo, là, on a reçu une formation française excellente. Elle était vraiment excellente. On a fait l'école de la République. Et voilà, on a... Et pour nous, c'était, au moment de l'indépendance, le français était perçu comme par beaucoup d'Algériens. On appelait ça, Katebessine a appelé ça, qui est un grand écrivain algérien, le plus grand, comme un bulletin de guerre. Mm-hmm. Donc, pour nous, le français, à cette époque, en ce moment-là, c'était super important. On n'avait pas d'identité, on était français, indigène, on ne sait pas trop. On arrive, pays indépendant, il faut se construire. Quelle langue? Quelle est notre langue?
Donc c'était une fondation.
Nous ne sommes pas des Arabes, donc nous sommes arabisés, des Berbères arabisés. Mm-hmm. Et l'Algérie s'est très vite divisée en deux. Les francophones, on va dire laïques, modernistes, peut-être socialistes, progressistes, enfin qui se situaient dans ce schéma-là, en gros des Lumières. Et puis ceux qui étaient dans la démarche pan-arabisme. Pan-islamiste, soviétique, un patchwork assez...
C'était vraiment deux camps.
Deux camps irréductibles.
Oui, irréductibles.
Irréductibles.
Et donc il y a eu une fracture.
Alors à l'indépendance, les francophones l'ont emporté parce que la trace, le bateau était lancé. Quoi.
Oui.
Donc on a continué sur... Y compris les lois françaises. Pendant longtemps, on a gardé le code civil et la langue, évidemment, d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et tout ça. Donc, et les francophones ont pris le pouvoir. C'est eux qui tenaient la haute administration. Ouais. Et puis, il y a eu la bascule parce que, à un moment donné, l'Algérie a été, je dirais, presque vertement condamnée par les autorités musulmanes. Vous êtes battu pour votre indépendance et vous parlez encore français et vous avez encore des églises chez vous. Il faut rentrer dans le rang. Et c'est comme ça que l'Arabie saoudite, et puis alors l'Égypte, c'était plutôt le pan-arabisme. Hein, revenait à la race arabe. C'était très, très racial. C'était basé sur le ralliement, c'était la race. Et les islamistes, le pan-islamisme, c'est l'islam. Et donc, et petit à petit, ils ont forcé le gouvernement à céder. La première décision, c'était, ils ont demandé au gouvernement algérien de séparer hommes et femmes. La mixité a été interdite. On arrive à l'école, puis tiens, les filles partent d'un côté, les garçons de l'autre. Pourquoi? Eh bien, c'est comme ça, parce que l'islam, parce que...
Mmh. Après, ça, c'était à quelle époque?
Dans les années, après l'indépendance, jusque dans les années 70. Mmh. Donc, petit à petit, la séparation, la mixité. Et puis ensuite, il y avait deux écoles, en fait. Une école entièrement en arabe et une école entièrement en français.
C'était deux mondes pour vous?
Oui. Absolument. Mmh. Très vite, on a découvert que c'était antinomique.
Oui.
Et votre rage, votre... Ça a été suscité par quoi exactement? C'est venu progressivement ou vraiment un jour c'était trop, quoi?
Non, je dirais progressivement, parce qu'au départ, on ne voyait pas venir les choses. Hein. On était jeunes, donc on n'avait pas cette capacité d'analyser les choses. On les voyait, on subissait. Hein. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre, ok. Ensuite, ça a été la façon de s'habiller, la façon de parler. C'était chaque jour un petit quelque chose. Enfin, c'est ce que nous observons en France, l'islamisme.
Oui, on va en parler,
Ils vont par petits bouts. Ils ne réclament pas tout, la charia, d'un coup. Ouais. Et puis à un moment donné, la goutte qui fait déborder le vase, c'est qu'à un moment donné, moi je me souviens, j'avais une copine française, parce qu'il y avait encore des Français, et puis c'est devenu interdit.
Mmh. Et là vous avez choisi votre camp. Alors, Boualem Sansal, vous avez vraiment décidé de faire de la défense de la langue française votre cheval de bataille. Et je voudrais vous citer, vous écrivez, « Il n'y a de peuple que dans une culture et une langue, de culture et de langue que dans la liberté, de liberté que dans le courage et l'honneur, de courage et d'honneur que dans l'amour de son pays et des siens. La nature de la chaîne signe la mort du peuple et la dislocation du pays. Quel diagnostic faites-vous de la situation de la langue française en France aujourd'hui, Boualem Sansal?
On est quelque part entre tout va bien et tout va mal.
Merci de nous apporter quelques précisions.
Dans certaines régions, je suis super content. Quand je vais, je ne sais pas. Il y a encore. La France est un pays de province. Chaque province a sa particularité.
Au pluriel, oui, c'est ça.
Ouais, 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 ouais. Dans certaines provinces, alors on dit, ah, voilà, un lieu de cohérence, les gens sont ce qu'ils sont. Ils sont vrais. C'est beau à voir. Ils vivent leur tradition locale, mais aussi nationale. Ils sont ouverts, ils sont intelligents. L'économie se porte bien. La vie sociale est encore agréable. Les gens s'expriment correctement. C'est formidable. Et puis, on voyage dans la province d'à côté. On dit, attends, est-ce qu'on a changé de pays ou, voilà. Voilà, c'est un peu cela, quoi.
Donc beaucoup s'interrogent, est-ce que la France est un archipel ou est-ce qu'elle est une mosaïque aujourd'hui? Vous en dites quoi, Boilem
Sansal? Moi, je pense qu'un archipel, hein, parce que... Oui, absolument. On est dans un phénomène d'éclatement, de séparation, de... mais la séparation n'est pas que... elle est... regardez, par exemple, je ne sais pas, entre les gens de droite et de gauche, mm-hmm. Ils ont toujours travaillé ensemble. Ils avaient le même souci pour le même pays, pour la même idée.
Ce qu'on appelait autrefois le bien commun.
C'est le bien commun. Mm-hmm. Il n'y a plus de commun.
Ça se délite.
C'est ou l'un ou l'autre.
Oui.
Aller discuter de bien commun avec Mélenchon, ce n'est pas possible.
Mm-hmm. C'est... Et pourtant, nous parlons tous la même langue, pour revenir à la question de la langue, Boilem Sansal.
La langue, c'est un merveilleux instrument de musique. On peut l'utiliser pour n'importe quelle musique.
Hein. Pour faire de la musique militaire, ou pour faire une berceuse.
Comme on veut.
Oui.
Et encore que la langue française est quand même nourrie par des valeurs anciennes, qui ont cristallisé.
Ça vous paraît important, ça?
Oui, oui.
Les valeurs que porte la langue française.
Absolument.
Vous les décrivez comment, ces valeurs?
Déjà, la liberté.
Oui.
C'est les valeurs de la lumière, c'est la liberté, c'est le vivre ensemble, avec le sens de... les mêmes définitions sur ce qu'est le beau, ce qu'est le vrai, ce qu'est la société.
C'est une communauté de pensée. Et c'est cette communauté-là qui est mise en péril en ce moment.
La fracturation. Déjà, Chirac l'avait noté. En parlant de la fracture sociale, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je veux dire que ça ne fait que s'aggraver.
Jean-Claude Raspienjas.
Vous allez beaucoup plus loin dans votre livre, puisque vous avez l'air de dire, et vous écrivez, qu'au fond, cette dislocation de la langue française, son éclatement, enfin son appauvrissement et tout ça, a l'air de reposer sur un fond de guerre civile larvée. Je me trompe
si... Oui, oui. Forcément, à partir du moment où on commence à diverger sur les fondamentaux, la guerre n'est qu'une suite naturelle. Elle se fera avec les armes ou par diverses manières, mais on y est déjà, hein.
À quoi voyez-vous les signes de cette dislocation et quelles en sont les prémices?
La fracture sociale, le sens du bien commun qui tournait autour d'une moyenne. Aujourd'hui, ils sont tellement... C'est quoi le bien commun quand on vit, je ne sais pas, dans certaines régions de France, disons à Paris dans le 16e, et ceux qui sont dans le 9-3, qu'est-ce qui est commun là? Donc ils s'ignorent totalement, et donc forcément, à un moment donné, les tensions vont être tellement fortes que les autres vont prendre des décisions radicales. De ce côté-là, ça a été la communautarisation, on se protège contre des trucs, puis ça a été le séparatisme, et puis l'enfermement, c'est un ghetto. Ça tourne au ghetto. Et puis, et de l'autre côté, ça devient une sorte de verrue. On ne sait pas comment regarder ça. Donc, quand on est animaliste, on dit, quand on joue là-dessus, il faut faire quelque chose, il faut les rattraper, c'est quand même nos frères, nos compatriotes. Ou d'autres disent, non, il faut carrément rompre, c'est pas possible.
Mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que
Jean-Claude Raspienjas,
au-delà des fractures sociales, économiques ou ces ghettos, ce que vous dites, c'est la langue qui témoigne de ça. Et de quelle façon, précisément, cette dislocation, la langue en témoigne, en souffre et en témoigne.
Boilem Sansal.
Déjà, c'est tout simplement au niveau du vocabulaire. Donc les mots n'ont plus le même sens.
Nous ne parlons plus la même langue.
On parle la même langue, mais les contenus sont différents. Que veut dire liberté? La liberté, en France, c'est clair, on peut faire des tas de discours là-dessus. On sait ce que c'est, quoi. C'est déjà la liberté de conscience. La liberté de parler, la liberté sexuelle, etc., etc. On peut habiller ça de différentes manières et trouver des moyens. On n'est peut-être pas tous d'accord sur la même définition de la liberté sexuelle, parce que si elle va dans toutes les directions, c'est plus une dépravation qu'une liberté. Mais enfin, on est à peu près... Mais dans l'univers musulman, la liberté, c'est une impiété colossale. L'individu n'existe pas. Existe le membre de la Oumma.
Il est membre de la communauté.
De la communauté. Et la communauté est sacrée. Mmh. C'est pas seulement, c'est pas le peuple, c'est pas une opinion, c'est pas un groupe. C'est quelque chose de sacré. C'est le peuple élu. C'est, voilà, le seul promis au paradis. Et donc, on utilise les mêmes mots parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais ils n'ont pas du tout le mot citoyen, le mot liberté, le mot truc. Mmh. Une femme, dans notre définition, voilà, c'est. Mais dans notre définition, non, une femme est une. Elle est là pour servir l'homme. Tout alors, simplement à la procréation.
On va revenir, Brolem Sansal, sur toutes ces questions, en particulier sur le rôle des religions dans la société française aujourd'hui. Avant cela, je voudrais vous proposer peut-être une bulle de détente, Brolem Sansal. Nous allons remonter à l'année 1975 avec une chanson que, je l'espère, vous trouverez en très bon français. C'était donc Félix Leclerc, Robert Charlebois et Gilles Vigneault, « Quand les hommes vivront d'amour ».
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous nous serons morts, mon frère.
Ici-bas, c'est le prix.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, et nous le serons.
Nous étions en 1975 avec Félix Leclerc, Robert Charlebois et Gilles Vigneault.
Et pas n'importe où.
Et pas n'importe où.
C'est-à-dire, on était sur les plaines d'Abraham, qui est un endroit sublime à Québec, et qui est un champ de bataille, qui est l'endroit où les Français ont perdu contre les Anglais. Et donc, cette chanson, ce jour-là, et à cet endroit-là, a eu une portée considérable, parce qu'elle a participé à la constitution de l'identité québécoise contre les anglophones. Et donc, c'est une chanson, quand on l'entend au Québec, qui a tout de suite une résonance presque aussi forte que notre Marseillaise.
Les racines du présent. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Au micro, Frédéric Mounier. Aujourd'hui, notre invité, Boualem Sansal, écrivain français, écrivain algérien. Il nous a dit qu'il était des deux rêves, des deux rives ou des deux rêves de la Méditerranée. Ouais. Le français, parlons-en, c'est le titre de son dernier livre aux éditions du Cerf. Nous sommes également en compagnie, vous venez de l'entendre, de Jean-Claude Raspienjas, journaliste, ancien chef du service culture du quotidien La Croix, ancien chroniqueur au Masque et la Plume de France Inter. Notre thème aujourd'hui, histoire du français, histoire de France, histoire universelle, point d'interrogation. Alors, Boualem Sansal, vous insistez évidemment dans votre livre sur la question religieuse. Vous vous définissez comme étant non religieux et vous êtes très sévère vis-à-vis des islams, Boualem Sansal.
Oui, religieux renvoie à religion, donc disons que je ne le suis pas. Mais je crois aux idées qui sont derrière la religion.
C'est-à-dire
Eh bien, c'est, vous, vous avez passé une chanson d'amour qui met en... moi, ça me plaît, ça. C'est l'idée que l'amour est un chemin de vérité. Voilà.
Ça, on peut encore le dire.
On peut encore le dire. Bon. Voilà, c'est formidable. Donc, je suis sur ce chemin. L'idée de... Je suis le chemin, la vérité et la vie, comme disait le Christ. Ça me plaît bien, ça. Voilà. C'est à la fois simple et c'est complet. Mmh. Voilà, donc on cherche un chemin. D'ailleurs, on cherche un chemin pourquoi ? C'est pour la vérité. Et parce que, qu'est-ce qu'on... Au bout, c'est la vie. Je trouve ça formidable.
En vous écoutant, Boulem Sansal, on vous sent en quelque sorte miséricordieux vis-à-vis du christianisme, on vous sent intransigeant vis-à-vis de l'islam.
Oui, c'est vrai que je suis très... sur le fond, je suis très chrétien, c'est vrai. Je suis très imbibé par ces choses-là. C'est aussi une chose que j'ai beaucoup, beaucoup étudiée. Et donc, je suis pétri de ces valeurs-là. Mais je n'aime pas trop les religions dans la mesure où elles se comportent aussi comme une organisation sociale qui, finalement, s'est heurté à d'autres formes d'organisation sociale. Elles n'ont jamais... C'est ce qui a mené à la séparation. C'est que, quelque part, ça n'allait pas.
En France, du moins.
En France, du moins. Ailleurs, ça s'est traité... C'est la même chose, mais ça s'est traité d'une autre manière. C'est parce qu'à un moment donné, l'ordre religieux, c'est un ordre, et l'ordre, on va dire, civil, etc., sont entrés en conflit.
Donc, à vos yeux, cette tension, elle est aujourd'hui réelle dans la plupart des pays arabo-musulmans ?
Oui. Ah oui, mais plus que... la question est tranchée, déjà. Oui.
Même plus... Tranchante.
Tranchante.
Oui, voilà.
Oui, absolument. Ça, c'est depuis la naissance de l'islam, c'est un rejet...
C'est consubstantiel.
C'est consubstantiel. L'islam est venu justement pour mettre fin aux errements juifs et chrétiens et autres, animistes, idolâtres, tout. C'est la vérité. La vérité arrive, elle est éternelle. Et dans un souci de cohérence, c'est ça que c'est extraordinaire. Et je trouve ça très intelligent de l'islam, parce que l'idée de dire l'islam commence aujourd'hui, du coup ça renvoie à la question. Donc hier, il n'était pas valable. Mmh. Non, il dit non. L'islam existe depuis toujours. Abraham est un musulman. Moïse est un musulman. Jésus est le meilleur des musulmans. Donc, on a islamisé...
C'est un prophète parmi d'autres, oui.
Pas parmi d'autres. Le meilleur.
Mm-hmm. Mais alors, Boualem Sansal, lorsque vous voyez le pape François se rendre en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, et dialoguer avec le grand imam de l'immense mosquée de Jakarta, signer un document conjoint...
Oui, mais toutes les tentatives sont bonnes à prendre. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, évidemment. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est bon. C'est une façon de militer pour la paix. Donc, voilà. Donc, il faut aller les uns s'inviter. Hein.
Mais c'est une illusion, à vos yeux ?
Ça peut être regardé comme une illusion. Pourquoi ? Parce que c'est une démarche à sens unique.
Oui.
Voilà.
Il n'y a pas l'équivalent du côté des islams de la recherche de dialogue que certains catholiques persistent à mener.
Voilà, absolument. Ça doit être réciproque. Si l'objectif c'est la paix, donc ça doit être réciproque. Voilà, c'est donnant-donnant. Par exemple, il est permis aux musulmans de construire autant de mosquées qu'ils veulent, partout. Mais l'inverse n'est pas possible. Mm-hmm. Les quelques chrétiens qui vivent encore en Algérie pratiquent leur culte dans des appartements de manière la plus secrète possible. Et la police enquête, et si on pense que dans cette habitation il y a des gens qui se réunissent tous les dimanches pour des machins, la police arrive, investit les lieux, et s'ils trouvent des bibles, des machins, c'est la prison.
Mais par ailleurs, à Abu Dhabi, au Sénégal, il y a des églises.
Ouais, voilà. Oui, absolument.
Jean-Claude Raspinjas.
Oui, alors, moi, je voudrais revenir sur l'illustration musicale. Elle était évidemment pertinente, puisque cette chanson-là, d'abord dit que quand les hommes vivants d'amour seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Et puis surtout, c'est le chant d'un peuple qui vraiment se bat pour préserver sa langue, la langue française, qui la préserve sûrement beaucoup mieux que nous. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous dites, au fond, c'est les francophones aujourd'hui. C'est les francophones de l'extérieur qui garantissent une certaine pérennité de la langue française qui a été abandonnée
en France.
Voilà, absolument.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur ce constat, ce diagnostic?
C'était, on va dire, la France, la capitale de la langue française, c'est elle qui, pendant des siècles, a donné le sens, elle a implanté, transplanté le français au Canada, en Afrique, dans beaucoup de pays arabes et tout ça, et puis c'était bien. Ça a bien fonctionné, ça a permis des progrès extraordinaires, scolarisation, parce qu'on n'avait pas d'école avant l'arrivée de la France en Algérie, ça n'existait pas.
Il y avait des écoles coraniques.
Non. L'école coranique, c'est pour le Coran,
oui.
Tout simplement.
D'accord.
Donc, une école où on apprend des choses au-delà de la religion. Et donc, c'est la France qui a amené cela. Donc, c'était formidable. Et on a découvert tout l'intérêt, au-delà des aspects philosophiques. C'est un intérêt. Ça a permis de. Et puis, ensuite, on se rend compte que la France n'a pas su accompagner. Parce que les pays francophones, au départ, avaient besoin d'aide. On n'a pas les enseignants. Mmh. Comment maintenir. Il y a eu une bagarre entre l'Algérie et la France dès les années 65, quand Boumediene a pris le pouvoir. Il avait demandé de multiplier, renforcer la coopération. On avait besoin d'ingénieurs, on avait besoin de médecins, on avait besoin d'enseignants, d'infirmières, de. Ça a été mis en place, mais il se trouve que le gouvernement algérien, à un moment donné, a pris une décision malheureuse, c'était la nationalisation des hydrocarbures. Et du coup, la France a arrêté la coopération. Et du jour au lendemain, on a régressé d'un siècle. Alors, on a remplacé au pied levé des professeurs, des chirurgiens. On a remplacé le chirurgien par un infirmier qui était là. Écoute, débrouille-toi.
Moi, je voudrais revenir à ma question. En quoi la francophonie peut-elle aider la France à cesser de perdre sa langue? Parce que vous dites, votre livre est pétri de formules lapidaires à fait passionnantes. J'en prends une, elle est à la page 40, donc on est déjà pas loin dans le livre. Vous dites, un peuple qui perd sa langue devient un étranger dans son pays, sombre dans la folie à force de se parler sans se comprendre, et s'éteint peu à peu. C'est vraiment la perception que vous avez aujourd'hui quand vous êtes en France?
Oui, absolument. Je ne suis pas le seul. Beaucoup de Français, le nombre d'écrits sur la perte de substance du français, c'est un de plus. Hein, mon livre, c'est un de plus.
Oui, mais alors, en même temps, Boualem Sansal, vous insistez, il y a de très nombreuses pages dans votre livre sur l'histoire de la langue française. Mm-hmm. Vous avez manifestement travaillé la question, d'où vient le français? Vient-il des Gaulois, des Romains, des Grecs, des Arabes? Vous avez cette très belle description des langues françaises. Je vous cite, une vaste et incessante symphonie, du gothique au rococo, en passant par toutes les nuances du baroque, qui sonnait, chuintait et pétaradait dans les oreilles. Ça allait du picard au provençal, du basque au breton, du vendéen au morvandio et au francique mosellan, du corse au catalan, du wallon à l'auvergnat, en passant par le françois royal de Paris, qui aidait à franchir la douane d'une région à l'autre. Nous venons de là, Boualem Sansal.
Ah, mais absolument, oui, ça a été une soupe extraordinaire.
Mais c'était une grande diversité.
Enfin, pas si miraculeux. Il y avait des gens qui ont travaillé à cela. Je vois les gens de la Pléiade, Joachim du Bellay, compagnie. On commençait à un moment donné à se dire il faut construire quelque chose de commun, faisons quelque chose de commun. Ils ont commencé, et puis ils ont été suivis par d'autres, et puis Richelieu arrive, il a une vision. Richelieu avait besoin évidemment de la langue française et tout ça pour unir le peuple et tout ça, mais c'est aussi, il voulait en faire une langue impériale, ça, parce qu'on peut conquérir par les armes, bien sûr, mais on peut les conquérir, et ça a réussi. Le français était la langue de toutes les cours européennes. C'était, on n'imaginait pas s'exprimer autrement. Ou en Russie, à la cour de Norvège ou de Suède, on n'imaginait pas. Et puis ça s'est répandu dans le monde entier. C'est devenu le français. Ça a été porté par des rois, par des Richelieu, enfin des gens comme ça, par les encyclopédistes, par la Pléiade. Il y avait beaucoup de choses. Et même au XXe siècle, les courants littéraires qui ont joué à fond la langue. pour rentrer, enfin, pénétrer les âmes, parce que voilà, c'est pas tout de parler à quelqu'un et de communiquer. Il faut aussi un échange au niveau supérieur. Quoi,
c'était même la langue diplomatique et même le Royaume-Uni, sa devise est en français.
Complètement.
On y soit, qui m'y pense, c'est ça?
Voilà. Exactement. Et là, voilà. Qui s'occupe de ça? Personne. Enfin, je crois que le dernier en date, c'était un peu Jacques Lang, encore, il a mis en place plein de dispositifs, le prix unique, favoriser la lecture, un homme qui lit en vaut deux, c'était partout. Quoi. Et puis, on a mis beaucoup de moyens dans la francophonie. Mais qui, la francophonie? C'était au temps de Abdou Diouf, donc un Sénégalais.
Sénégalais, président du Sénégal.
Partons donc de Senghor, qui est
Alors justement, dans votre livre, vous finissez par dire, c'est les francophones qui vont assurer la survie et le maintien de la langue française. Et vous dites, le salut viendra du Congo et du Sénégal.
Ben oui, moi
de quelle façon,
franchement. Alors moi, je vois dans mon pays comment le français qui était partout, il refuse, il a quitté les campagnes, c'est fini. Il est arrivé dans les villages, il a disparu. Et maintenant, il arrive dans les banlieues des grandes villes.
Mais pourquoi le Congo et le Sénégal?
Eh bien, je ne sais pas. Non, il y a quand même une raison. C'est parce qu'ils n'avaient pas de langue nationale. Parce que...
Il y avait beaucoup de langues, une pluralité de langues.
Voilà, dans tous ces pays-là, vous avez... Par centaines, c'est pas seulement 2-3 langues.
Un peu comme chez nous, il n'y a pas si longtemps.
Voilà,
c'est ce que vous décrivez également.
Quand je parle de 50
oui.
langues, ben c'était pareil. Mm-hmm. Il fallait choisir. Alors, si on prend le Wolof, ben ça déclenche une guerre civile. Si on prend le Bambara, ça déclenche une guerre civile. Le Haoussa, c'est pareil, guerre civile. Donc, ils ont été intelligents, les Africains. Ils ont dit...
Mais alors, Boualem Sansal...
Et donc, ça s'est maintenu, c'est parce que c'est la langue nationale. Nous, on l'a supprimée de la Constitution.
Mais en même temps, vous écrivez Boualem Sansal, vous avez une très belle phrase pour dire, tout à l'heure vous nous avez expliqué à quel point les écoles étaient importantes, la France avait apporté l'école dans votre pays natal, l'Algérie, et vous écrivez, les autochtones sont restés eux-mêmes, de pauvres airs portant burnou berbère, turban arabe, sarwal turc, fez, kippa, tatouage africain, parlant berbère, arabe, turc, ou ladino, et n'entendant le français qu'avec un interprète assermenté pour les assister devant le juge de paix. C'est bête à dire, écrivez-vous, Boualem Sansal, mais le français n'était parlé que par les français. Alors, que faut-il comprendre?
C'était la langue de la colonisation, de l'administration.
Donc vous ne pouviez pas la garder d'une certaine façon?
Et les pieds noirs ne parlaient pas français.
Ah oui.
Chaque groupe parlait l'espagnol, les
patahouètes.
Ça a été une construction.
Oui.
Au départ, chaque communauté avait sa langue. Mm-hmm. L'italien, l'espagnol, le grec, le maltais. Et puis petit à petit, parce que bon, ils se sont urbanisés, donc ils vivent en ville, dans les mêmes quartiers. Donc c'est construit le patahouète. On va dire que c'est un tiers de français, un tiers de berbère et d'arabe dialectal, et puis un tiers, par exemple, de l'espagnol, enfin, un truc invraisemblable, et qui a fonctionné. Parce qu'on vivait dans une grande promiscuité. Les gens pauvres vivent dans la promiscuité, donc les échanges sont très rapides. Mmh. C'est pas comme le français, c'est le français de l'administration, de l'école, c'est-à-dire de la promotion sociale.
Donc le français pouvait-il être la langue nationale de l'Algérie indépendante?
Mais tout à fait.
Oui.
Parce qu'à un moment donné, quand évidemment toutes ces populations pieds noirs, kabyles et tout ça ont évolué, donc leur standing. Le français, c'était la langue de la promotion sociale. Et voilà. Et donc, il a été adopté. Et puis, ensuite, la chose a été cassée. Bah, évidemment, l'indépendance, on l'a...
Alors, revenons, si vous le voulez bien, Boualem Sansal, sur notre rive de la Méditerranée, revenant en France, car votre livre parle beaucoup de la France et pose un diagnostic, Jean-Claude Raspienjas l'a dit, plutôt sévère. Vous évoquez, en ce qui concerne notre pays, la France, la colonisation par le bas. Vous écrivez « La sous-culture éteint la grande culture, enclenche des processus de décomposition irréversibles. » Quels sont, à vos yeux, Boualem Sansal, les symptômes de cette ou de ces sous-cultures en France?
Oh, ils sont très nombreux. Hein. C'est d'abord le niveau scolaire qui baisse, hein, donc y compris chez les enfants. Donc ça, c'est le premier, premier phénomène visible. Hein, c'est que quand on va comme ça dans la périphérie des villes et tout ça, bon, la langue française a disparu. Donc il s'accroche à quoi? Et ben il bricole. Et
carrément, vous dites. La langue française
est distincte. Ah oui, carrément. Oui. Elle est même assez honteuse. Mm-hmm. Moi, en Algérie, il y a plein de gens. Je vais vous raconter une petite anecdote. Hein. Je suis à Alger, chez moi, dans ma petite ville. Je fais la queue chez le boulanger pour acheter du pain. Et puis, à un moment donné, le boulanger me donne... Je lui ai dit en français, donne-moi une baguette. Un gamin de 12 ans derrière m'a insulté.
Ah oui?
En me disant, grand-père, tu n'as pas honte, tu parles français, la langue des chrétiens. Oh non, elle est là. Et ça, c'est un exemple. Mais quand moi, j'étais directeur général d'industrie. Dans l'industrie, on travaille en français. Mais quand dans des réunions comme ça, enfin, il est là. Mais c'est pas possible, il faut parler en arabe. Or, moi, à l'époque, je ne savais pas. C'est pas que je ne sais pas, je connais très bien l'arabe. Mais le parler, pour moi, n'est pas évident. C'est plus naturel de parler, on va dire, en français ou en berbère qu'en arabe.
Oui, mais ici en France.
Ici?
Vous dites.
Ah ben, dans les banlieues, c'est absolument... Hein.
Ce que vous dites, c'est qu'on ne parle plus français dans les banlieues?
Non, mais ça, je vous garantis. Hein. Oui. Je circule beaucoup, j'ai beaucoup enquêté dans ces... Non, c'est fini. Mm-hmm. On parle exactement comme à Tunis, comme à Casablanca ou comme à Alger. Hein. Vous n'entendez que de l'arabe, beaucoup aussi d'Africains dans les quartiers du Wolof, du Bambara, du Haoussa. Quand on parle français, c'est vraiment... c'est des expressions. Voilà, c'est des expressions.
Et quelles sont les raisons de cette déliquescence de l'usage du français par la France? Quelles sont les raisons, les symptômes réels de cette décomposition de la langue française par les Français eux-mêmes? Parce que vous dites mondialisation heureuse, l'américanisation, vous dites même à un moment, les Français, c'est une sorte de soumission volontaire du colonisé au colonisateur. Le colonisateur est évidemment l'anglo-saxon.
C'est une longue histoire, parce que là, qu'est-ce qu'on observe, c'est que depuis une cinquantaine d'années à peu près, la France, mais d'une manière générale l'Europe, sont sur une ligne de déclin. Déclin industriel, déclin économique, déclin culturel, artistique, tout, quoi. Enfin, il y a une régression. Et la nature est horreur du vide. Quand quelque chose est enlevé, elle est remplacée par quelque chose d'autre. Voilà. Et donc, on a laissé le terrain ouvert à l'anglais, à n'importe quoi.
Vous dites soumission volontaire.
Oui, parce qu'à un moment donné, est né, ces 20-30 dernières années, un discours, on se bat la coulpe. Hein. On a colonisé, on a fait, et puis ceci, et puis cela, et puis derrière, il y a des jeux politiques, LFI encore, qui s'inspirent des discours des années, on va dire, 60, l'international socialiste, le tiers-mondisme, c'est tout ça. Mais c'est vrai que, à la limite, quelqu'un comme Mélenchon, ou la LFI, qui veulent s'emparer du pouvoir, il leur faut des troupes, il leur faut un discours. S'ils font du discours franco-français, ils sont perdants, parce que ce discours est déjà pris par la droite, par...
Donc ils vont chercher ailleurs.
Donc ils cherchent une originalité et un public. Et ils l'ont trouvé, évidemment, dans les banlieues, mais ils l'ont de plus en plus. Ce n'est plus les banlieues qui fournissent cette... ce sont les Français qui se convertissent. Pas forcément qui deviennent religieux, mais il rentre dans une dynamique. Bon, lui, l'islam fait partie de la France, pourquoi pas. Il a toute sa place, et puis c'est sympathique. Voilà, et donc, c'est ce que j'appelle un peu... On accepte la chose, parce que peut-être on n'a pas le courage de réagir.
Alors, Boilem Sansal, je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Français, parlons-en. C'est aux éditions du CERF. Puisque vous évoquez les questions politiques, je voudrais vous faire écouter... un extrait des chroniques de la haine ordinaire de Pierre Desproges. Ça nous ramène aux années 86. Nous sommes le 3 mars 86. Et ce jour-là, la chronique de Pierre Desproges était consacrée justement à la démocratie. Mmh. Vous allez écouter et vous allez me dire comment vous voyez aujourd'hui le débat autour de la question de la démocratie. On écoute Pierre Desproges quelques instants.
Voici une émission de radiophonie pour déranger ma maman. Ça s'appelle Les Chroniques de la haine ordinaire. Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant, de plus scandaleux que de ne pas croire en la démocratie? Et pourtant, Moi-même, quand on me demande « Êtes-vous démocrate ?», je me tâte. Attitude révélatrice dans la mesure où, face à la gravité de ce genre de questions, la décence voudrait plutôt que l'on cessât de se tâter. Un ami royaliste me faisait récemment remarquer que la démocratie était la pire des dictatures parce qu'elle est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Mais oui, réfléchissez-y une seconde, c'est pas idiot. Pensez-y avant de reprendre inconsidérément la Bastille. Alors qu'en monarchie, absolue notamment, la loi du prince refuse cette attitude discriminatoire puisqu'elle est la même pour les pour et pour les contre. Vous me direz que cela ne justifie pas qu'on aille dépoussiérer les bâtards d'Orléans ou ramasser les débris de Bourbon pour les poser sur le trône de France avec la couronne au front, le sceptre à la main et la plume où vous voudrez, je ne sais pas faire les bouquets. Mais convenez avec moi que ce mépris constitutionnel des minorités qui caractérise les régimes démocratiques peut surprendre le penseur humaniste qui sommeille chez tout cochon régicide. D'autant plus que, paradoxe, les intellectuels démocrates les plus sincères n'ont souvent plus d'autre but, quand ils font partie de la majorité élue, que d'essayer à tout prix d'appartenir à une minorité. Dans les milieux dits artistiques, où le souci que j'ai de nourrir ma famille me pousse encore trop souvent à sucer des joues dans des cocktails suintants de faux amours, on rencontre des brassées de démocrates militants qui préféreraient crever plutôt que d'être plus de 12 à avoir compris le dernier Godard, et qui méprisent suprêmement le troupeau de leurs électeurs qui se pressent aux Belmonderies boulevardières. Parce que ça aussi, c'est la démocratie. La démocratie, c'est la victoire de Belmondo sur Fellini. C'est aussi l'obligation, pour ceux qui n'aiment pas ça, de subir à longueur d'antenne le football et les embrassades poilues de ces cro-magnons décérébrés qu'on a vu s'éclater de rire sur le charnier de leurs supporters. La démocratie, c'est aussi la loi du top 50 et des mamas gloussantes reconverties en dondons tisanières. La démocratie, c'est quand Lubitsch, Mozart, René Char, Reiser ou les batailleurs de chez Polak ou n'importe quoi d'autre qu'on puisse soupçonner même de loin d'intelligence est reporté à la minuit pour que la majorité puisse s'émerveiller dès 20h30 en rotant son fromage du soir sur le spectacle irréel d'un béat trentenaire figé dans un sourire définitif de figue éclatée et offrant des automobiles clés en main à des pauvresses arthritiques sans défense et dépourvues de permis de conduire.
Voilà, Bolem Sansal, vous avez écouté cet extrait d'une chronique de la haine ordinaire. C'était le 3 mars 86, Pierre Desproges, sur les antennes de Radio France. C'est du bon français.
Ah, parfait.
Et ça fait appel à la culture française.
Parfait, c'est très fin, il y a beaucoup aussi de...
Alors, voilà. La démocratie était-elle déjà en péril en 86, Bolem Sansal, et comment voyez-vous cela aujourd'hui?
La démocratie est constamment en difficulté, bien sûr. Dans les années 30, 40, avec la montée des fascismes et tout ça, elle a été si bien menacée qu'elle a disparu. Au moins dans la moitié de la France, on a vu le pétainisme. Donc elle l'est constamment. Donc, alors ça dépend de l'état du pays. Un pays qui est prospère, je dirais presque naturellement, démocrate.
Ah oui.
Ou presque.
L'Amérique de Trump est-elle démocrate?
Elle n'est pas prospère.
Oui.
C'est une, c'est une économie complètement, c'est une économie violente. L'économie américaine est violente. Hein, donc voilà, moi je dis prospérité au sens noble du terme. Hein, donc là, la démocratie naturelle, elle se porte bien. C'est quand les dérèglements. Comment ça se produit?
Notamment peut-être le dérèglement culturel que vous évoquiez il y a un instant.
D'abord, ça commence par le dérèglement économique, qui crée des chômeurs, qui crée des parias, qui les repousse à la périphérie, qui les récupère par ailleurs avec des salaires nuls. Donc ça génère des colères, des divisions, et ça menace. Et évidemment, ça fait monter les extrêmes droites et les extrêmes gauches et tout ce qu'on veut. Donc il faut travailler déjà la prospérité. La langue repose sur quelque chose, elle n'est pas du néant comme ça. Donc...
Est-ce que le français
et là,
est porteur
aujourd'hui,
de...
on ne le sait pas, c'est qu'on ne sait même pas définir ce qu'est l'économie. L'économie a été évincée. L'économie, c'est la production. Oui. Donc c'est des
Vous êtes économiste de formation.
Oui.
Hein.
Ingénieur.
Oui, ingénieur, oui, c'est
puis
ça.
Puis ensuite, voilà. Et donc, l'économie, c'est quand même un système de production. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Ça crée, on crée des choses. Elle est remplacée par... je sais pas comment l'appeler, c'est la financiarisation. C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de créer pour répondre à des besoins sociaux. voilà, fournir de, plus de logements, plus de ceci aux citoyens, améliorer leur prospérité, leur confort, pour qu'ils soient de bons citoyens. Non, c'est de la finance.
Et donc il y a un dévoiement.
Il y a un dévoiement, surtout la politique, est aussi un dévoiement. Quand, je sais pas, quand un président ne travaille que pour l'Union européenne, c'est bien, pourquoi pas, mais il faut se donner... Il ne faut pas brader les acquis pour aller vers ce qu'on n'a pas. C'est quoi l'Europe ? On veut me faire sortir de...
L'Europe est une chance.
Il faut la construire.
C'est ce qu'on entend beaucoup. Oui.
Voilà, il faut la construire. Pour le moment, c'est plus une... c'est pas une chance pour le moment.
Bon, on sent votre interrogation. Jean-Claude Raspienjas.
Dans vos cibles, vous pointez que la France est aussi soumise à une sorte de globiche, d'américanisation, de mondialisation heureuse. Comment vous voyez ça ?
Boilem Sansal.
Ben, mais on le voit, je veux dire qu'il suffit simplement de regarder. Hein. C'est pas,
c'est, et d'écouter.
Oui, mais vous savez, maintenant, de plus on s'élève dans la société, enfin, à tous les niveaux, il y a une sorte de coquetterie à parler, soit globiche, wesh-wesh, en haut, en bas. Et en haut, c'est se projeter dans des trucs, le wokisme, voilà, des trucs...
La novlangue. Voilà, la novlangue en haut et le wesh-wesh en bas, c'est ça.
C'est pas mal. La formule, j'ai adoré. Ouais. Donc voilà, on est dans des jeux de société, des trucs ridicules. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'État qui assure le service minimum.
Alors, à un moment, vous pointez vers la fin de votre livre le problème de la transmission. Et vous dites que la transmission de la langue n'est pas assurée. Et en vous lisant, je sens une vraie nostalgie chez vous, parce que je crois que vous en avez bénéficié, des hussards noirs de la République. Au fond, vous appelez à un retour des hussards noirs de la République, c'est bien ça ?
Oui, absolument. On peut le dire. Oui, on peut le dire comme ça. Je veux dire que il y a des choses formidables qui c'est trop triste de les voir se perdre. Si on pouvait les récupérer, ce serait bien. Si on pouvait trouver quelque chose encore de plus intelligent pour les remplacer, c'est très bien. Pour être un peu dans le mouvement du temps, mais c'est décevant. On est triste. On est chaque jour un peu attristé par plein de choses, quoi.
Mais précisément, qu'est-ce que la langue française pour vous? Algérien, qu'est-ce que la langue française vous a apporté dans votre vie ? Quelle a été la richesse de cette langue ?
De quoi est-elle porteuse ?
Ouais, c'est ça. Oui,
est-elle porteuse de démocratie, par exemple, Boilem Sansal ?
Tout. D'abord, elle a amené aux Algériens qui étaient régis par le statut de l'indigénat. Ça a été un couloir extraordinaire pour la promotion sociale. Donc voilà, à partir du moment où on commence à parler français, donc on... Pratiquement, c'est certain, on va trouver un emploi dans l'administration, donc ça, les enfants vont à l'école, etc. Donc il y a un processus. La langue a été, en quelque sorte, presque, comment on pourrait dire, un instrument censitaire. Elle a permis, effectivement, de... La France ne pouvait pas socialiser tous les Algériens tout d'un coup, donc il fallait mettre on va dire la barrière, c'était celle-ci, la langue. On commence... Eh bien, ici, on n'a jamais posé comme condition d'intégration première la connaissance du français.
Et pour vous, ça devrait être le cas ?
Ça devrait être le cas.
Oui, il devrait y avoir un test de français.
Mais dans beaucoup de pays, on arrive, très bien. L'économie a besoin de main-d'œuvre, on fait venir des gens, mais on les socialise. On ne les lâche pas dans la nature comme ça, et puis ensuite, ils font ce qu'ils veulent. On les met dans des écoles, on met en place des dispositifs, au moins celui-ci, la langue, pour que... Parce que sans la langue, et sa langue d'origine, il est tout seul. Il vit dans une solitude extraordinaire. Donc il va chercher...
Il va chercher ceux qui lui ressemblent à travers l'unique langue dont il dispose, voilà. Qui est la sienne, c'est ça.
Et donc il faut leur donner des béquilles au départ, c'est vrai. Mais ça c'est valable même pour les gens riches. Et aller immigrer aux États-Unis, les 6 premiers mois vous êtes perdus si vous ne connaissez pas, si vous ne parlez pas correctement. Donc qu'est-ce que vous allez dans le quartier français, vous allez retrouver des Français qui vont vous aider à mettre le pied à l'étrier et vous dire attention et ceci, cela, ils vous donnent les clés.
Alors revenons à l'histoire, si vous le voulez bien, Boilem Sansal. Vous êtes Vous lancez une sorte de cri d'alerte envers les Français. Et vous évoquez notamment le monde arabo-musulman. Vous vous rappelez qu'il avait disparu du radar politique, culturel et scientifique mondial depuis le sac de Bagdad par les Mongols en 1258, ayant acté la destruction du califat abbasside. Nous renvoyons nos lecteurs à votre livre, hein, Le Français, parlons-en. Ouais. Mais vous dites aujourd'hui, l'Europe sort à reculons de la civilisation qu'elle avait brillamment agencée et déployée dans le monde, pendant que les nouveaux conquérants musulmans, sino-confucianistes, hindous, s'y engouffrent par la grande porte avec la petite idée en tête de lui faire payer cher le prix de ses victoires coloniales d'antan.
Ouais.
Est-ce que vous regrettez la période de la domination coloniale occidentale, ou est-ce que vous regrettez encore plus ces nouvelles dominations qui arrivent à l'horizon? Comment vous vous situez, Boualem Sansal?
Moi, je ne connais pas le... Non, c'est vrai qu'on observe évidemment le recul de la France dans tout, beaucoup de domaines scientifiques, culturels, linguistiques et tout ça. Donc, on le déplore. Et puis, ce qu'on voit arriver, eh ben, on essaie de comprendre d'abord pourquoi il vient. Donc, et puis, on se rend compte que c'est presque naturellement pour conquérir soit des marchés, des parts de marché. Nous, on le voit en Algérie. La France, entre l'Algérie et la France, le commerce extérieur, 90% du commerce extérieur de l'Algérie se faisait avec la France. On lui vendait du pétrole et du gaz et quelques minerais, et on achetait tout de France, et ça nous plaisait bien, parce que ça correspondait à notre façon de nous habiller, notre façon... On aimait bien le camembert, etc. Donc, c'était bien. Et puis, bon, reflux pour des raisons politiques, etc., etc. Et on voit arriver des gens, mais ils viennent, mais pour conquérir d'abord des marchés, et puis ensuite, ils commencent à avoir un poids politique. On a vu arriver chez nous les Chinois, qui au début, c'était invisible. Hein, donc, on s'est tous retrouvés à consommer chinois, sans aucun contrôle, parce qu'on sait que les produits européens sont au moins contrôlés. Là, on ne sait pas d'où ça vient, bon, on vit avec. Et puis, à un moment donné, ils acquièrent du pouvoir parce qu'il n'y a pas plus corrompu que les Chinois. Les Chinois ne gagnent pas les marchés par la concurrence. C'est en payant du cash aux généraux qui leur ouvrent des secteurs entiers. Voilà. Et donc, maintenant, ils ont évincé. On a besoin de concurrence. À défaut, on aimerait bien traiter avec un partenaire privilégié parce qu'on s'entend avec lui. Mais c'est aussi bien d'avoir de la concurrence. Ça permet de faire baisser les prix, tout ça. Mais quand les Chinois arrivent, ils chassent tout le monde. Parce que si vous offrez ça à 2 euros, eux, ils l'offrent à 50 centimes. Donc, ils vous tuent dans la semaine. Vous ne pouvez pas concurrencer les Chinois. Et une fois qu'il est installé, et puis, nous, pays pauvres, on ne peut pas payer 2 euros. On les a pas. Donc, on accepte des produits chinois. Et on n'exige pas de contrôle. Beaucoup de produits chinois et des prestations de services fournies en Algérie sont fournies par des prisonniers. La Chine utilise des prisonniers en Afrique. De plus en plus.
Oui.
Et qui, à la fin des chantiers, les abandonnent. Donc, et ils sont en train de créer des Chinatowns partout. Il y en a deux à Alger qui ont poussé ces dernières années.
Alors, Boualem Sansal, je rappelle que vous êtes citoyen algérien, citoyen français. On arrive malheureusement au terme de cette conversation tout à fait passionnante. Vous le savez, la question migratoire est aujourd'hui au cœur de nombreux débats politiques en France. Que dites-vous à vos concitoyens algériens qui souhaitent émigrer en France?
Alors, je vais vous dire la réalité. Je suis étonné qu'on n'en parle jamais. L'émigration cause du tort d'abord à nos pays.
Au pays d'origine.
Au pays d'origine. Imaginez, dans les villages africains, petit village de 300, 400 personnes, il y a deux personnes ou trois qui travaillent. Il y a les vieux, les vieilles, les enfants, beaucoup d'enfants. Et qui fait vivre le village, c'est deux, trois...
Et les transferts financiers. Et
lorsque ces jeunes-là partent,
voilà.
Parce que de temps en temps, la mauvaise saison, et les sauterelles, les trucs, mauvaise récolte, difficile. Le jeune, les deux, trois jeunes qu'il y a, viennent en France pour... le village est mort. 6 mois après, le village est mort.
Donc la migration tue les pays d'origine.
Parce qu'ils partent, ils ne reviennent pas.
Oui.
Ils s'installent. Au début, ils n'ont pas de l'argent, donc le village se maintient avec... et puis, ils sont absorbés par la société. Ils se marient ici, ils s'installent. Et il n'a plus assez pour... et le village périclite. Et nous, on a vu pendant la période où beaucoup de gens, beaucoup de jeunes partaient, ben, moi, j'ai vu des milliers et des milliers de villages disparaître en l'espace de 6 mois.
En Algérie. Se dévitaliser de l'intérieur.
Ben, il ne reste plus que des vieilles et des vieux. Ouais. Ils bricolent comme ils peuvent. Une été, de temps en temps, l'assistance de machins humanitaires, hein, des Anglais, des Allemands qui sont dans l'associatif et qui viennent les aider, ils disparaisseraient complètement. Et nous, en Algérie, on a vu disparaître des centaines, peut-être des milliers de villages.
Donc vous dites à vos concitoyens, restez au pays ?
Je leur dis pas restez.
Oui.
Occupez-vous de votre famille, vous n'allez pas partir en abandonnant vos enfants, vos femmes, vos parents. C'est ça que je... Mmh.
Alors enfin, peut-être un dernier mot, Boualem Sansal, je rappelle le titre de votre livre, Le français, parlons-en. Donc vous avez beaucoup travaillé sur le caractère structurant du français, culturellement, politiquement, etc. On voit bien que votre livre est empreint d'un certain pessimisme. Pouvez-vous nous donner, pour terminer cette émission, peut-être une ultime parole d'espérance ?
Ah, mais l'espérance est dans le désespoir, tout simplement.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, c'est quand on est vraiment désespéré, quand on ne voit plus de solution, que là, il y a des forces qui viennent du très fond.
Il faut toucher le fond de la piscine ?
Il faut toucher le fond de la piscine pour rebondir. Et là, on n'est pas loin du fond. Et donc, j'espère un rebond très rapide. On voit quand même, de temps en temps, ici et là, des rebonds. C'est un peu particulier. Par exemple, je ne sais pas, le cinéma français était en train de mourir il y a quelques années. Là, il y a eu un petit rebond. C'est pas mal. La littérature, c'est pareil. Dans un certain nombre de domaines, le fond a été atteint.
Pourtant, vous dites la France est intellectuellement et moralement ruinée.
Mais oui,
vous n'allez pas un peu fort, là ?
Mais je suis dans la pédagogie, donc il faut heurter. Si tout est arrondi, ça n'attire pas le regard, il faut lire. Et ensuite, voir si effectivement c'est exagéré ou pas. Donc, alors ceux qui pensent que c'est exagéré, ils ne feront rien. Donc c'est des mauvais lecteurs. Celui qui pense que c'est peut-être vrai ce qu'il dit, peut-être qu'ils vont commencer à réfléchir.
Donc vous êtes un adepte de la stratégie de rupture.
Boualem Sansal, vous avez vécu comme nous tous la parenthèse heureuse et peut-être dorée des Jeux Olympiques. Elle vous paraît reproductible ?
Certainement. Absolument, oui, mais non, il faut.
Mais avec quoi ?
Avec quoi ?
Moi, je dis toujours, je suis un pessimiste, optimiste. Mm-hmm. Bon, avec quoi ? Je sais pas. L'avenir appartient à lui-même. Je pense que si on faisait les Jeux Olympiques, ce serait aussi bien. Mais. On verra.
Bien. Boualem Sansal, un grand merci à vous pour cette conversation, finalement relativement optimiste.
Oui.
Contrairement à votre livre, qui est quand même assez, il faut le dire aux auditeurs, c'est un livre qui est sévère.
Oui.
Sévère envers la France, sévère envers l'Algérie, sévère envers les islams.
Il faut.
Mais en même temps.
Il faut un peu secouer le.
Voilà. Donc vous secouez les cocotiers des deux côtés de la Méditerranée. Voilà. Un grand merci à vous, Boualem Sansal. Je rappelle le titre de votre livre, Le français, parlons-en. C'est publié aux éditions du CERF. Un grand merci également à Jean-Claude Raspienjas, ancien chef du service culture de la Croix, ancien chroniqueur au Masque et la Plume sur France Inter. Un grand merci à Cédric Coba qui a réalisé cette émission. Vous pouvez évidemment nous retrouver, ainsi que les références des livres de notre invité, sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Et vous pouvez évidemment nous écouter en balado-diffusion, en podcast, comme on dit en français, à partir de toutes les plateformes de podcast. Je vous souhaite une bonne audition renouvelée, où que vous soyez, dans la voiture, dans le métro, en train, sous la douche, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Un grand merci à vous pour votre fidélité.
Dans quelques minutes, place à l'émission Au pied de la lettre, présentée par Christophe Héning. Message de Philippe Lansac, directeur général RCF.
À l'occasion du Radiodon, vous avez été très nombreux à nous apporter votre soutien financier dans un formidable élan de générosité. Votre engagement, vos nombreux témoignages nous encouragent plus que jamais à poursuivre notre mission de radio chrétienne. Alors, de tout cœur, au nom de toutes les radios RCF, merci.
Il est toujours temps de nous soutenir. Faites aujourd'hui un don en ligne sur rcf.fr.
Vous écoutez RCF dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, sur le 94.6, à Vouziers, sur le 98.2, à Sedan, sur le 103.2 et partout en France avec l'application RCF.